J'aimerais parler sur la désobéissance de Jonas. Dans Jonas, chapitre 1, verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Mais pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Il nous arrive tous de désobéir à Dieu, même si nous sommes sincères, même si nous voulons faire le bien, même si nous voulons être fidèles. Eh bien, immanquablement, un jour ou l'autre, nous choisissons le chemin de la désobéissance. Soit parce que la volonté de Dieu nous semble trop dure, soit parce que nous pensons que nous pouvons mieux faire d'une autre manière que ce que Dieu nous enseigne, soit parce qu'il y a en nous des résistances à faire la volonté de Dieu, il y a des obstacles, des oppositions, il y a des tentations, et un jour ou l'autre, comme Jonas, nous désobéissons. Nous savons dans la parole de Dieu que la désobéissance, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu, de manière formelle. Mais il faut nous rappeler que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, nous pouvons dire ce soir qu'il est devenu notre sauveur, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour effacer nos péchés, et là tout le monde a été au bénéfice de ce sacrifice, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire ce soir que Jésus est aussi notre Seigneur? Et ça, c'est une marche supplémentaire. Parce que dire que Jésus m'a sauvé, c'est bien. Mais s'il est mon Seigneur, ça veut dire qu'il a le contrôle de mon existence. Et là, ça change. C'est-à-dire qu'il a le droit de nous diriger. Par exemple, Jésus a obligé les disciples à faire des choses. Il a obligé les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté avant lui. Et à plusieurs endroits, Jésus dit « Vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien ». Donc Jésus n'est pas simplement notre sauveur, il est notre maître, il est notre Seigneur et nous devons lui obéir. Un petit peu comme Jonas devait obéir à Dieu, eh bien nous devons obéir à Jésus. D'ailleurs, Jésus nous a montré le modèle de l'obéissance, puisque la Bible dit qu'il a renoncé à sa propre volonté pour faire celle de Dieu, en disant « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, devant la croix ». Il n'a pas reculé. Beaucoup de gens suivent Jésus pour les bénédictions, et on a l'impression que obéir à Dieu, pour eux, c'est une punition. C'est quelque chose qui va les priver, c'est quelque chose qui va les mettre en difficulté. Alors qu'obéir à Dieu, c'est une réelle bénédiction aussi. Même si, pour nous, obéir à Dieu n'est pas toujours dans le sens que nous pensons. Mais c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la paix. Alors, voilà pourquoi tant de chrétiens sont tristes, ils sont amers, ils sont déçus, parce que la volonté de Dieu, ils la voient comme quelque chose, comme une contrainte, comme quelque chose qui va leur faire du mal, qui va les faire souffrir, comme une punition. Alors qu'en fait, il nous faut réaliser que la volonté de Dieu, elle est parfaite et elle est la meilleure pour nous. Il faut simplement l'accepter comme une donnée, comme quelque chose qui est absolu. D'ailleurs, j'ai remarqué au ciel qu'il n'y a absolument aucune désobéissance. Si vous regardez par exemple le psaume 103, il est question des anges, il est dit au psaume 103 au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres à la voix de sa parole. » Ils exécutent toujours les ordres de Dieu. Il n'y a pas un ange qui désobéit, il n'y a pas un ange qui se rebelle, il n'y a pas un ange qui se révolte contre la volonté de Dieu parce que tout est parfait dans la présence de Dieu. Eh bien, nous aussi, il nous est demandé de nous soumettre à Dieu. Dans un verset de Pierre, il est dit « Soumettez-vous à Dieu ». C'est quelque chose que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose que « Est-ce que tu veux te soumettre ?» Ou est-ce que tu ne veux pas te soumettre? Non, c'est un ordre divin. Soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira loin de vous. Remarquez que d'abord, ça commence par la soumission. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable et il ne fuira pas loin de nous. Donc tout est bien expliqué dans la parole et Jonas, on voit qu'il a désobéi, il a manqué de soumission. L'histoire de Jonas, en fait, est un petit peu un parallèle avec l'histoire d'Israël. Quand on regarde l'histoire de Jonas, on voit derrière lui l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi ? Premièrement, parce que Jonas était appelé à être un témoin de Dieu dans une nation païenne, de même que c'était le rôle d'Israël. Deuxièmement, parce qu'il a voulu garder le message de Dieu pour lui et ne pas le répandre aux nations. Troisièmement, par sa désobéissance, il est devenu une cause de trouble pour les nations. Quatrièmement, il a été rejeté à la mer, mais il a été miraculeusement gardé par Dieu. Et tout cela, on voit le peuple d'Israël derrière. Et puis enfin, par son obéissance, il est devenu une source de bénédiction pour des païens. Eh bien, ça a été la même chose pour Israël. Donc le premier point, c'est la parole de l'Éternel qui s'adresse à Jonas au verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. » D'abord, Jonas, le nom même de Jonas, vous savez qu'en hébreu, tous les noms ont une signification. Jonas, ça signifie « colombe ». Colombe, qui est un des symboles de l'Esprit. On sait qu'il est prophète, et les prophètes parlaient sous l'onction du Saint-Esprit. Donc il a la parole de Dieu qui vient sur lui, il sait que c'est Dieu qui lui parle, il ne se demande pas « est-ce que c'est mon imagination ? Est-ce que c'est moi qui pense comme cela ?» C'est la parole de Dieu, il sait la discerner, il sait la reconnaître, et il sait que Dieu lui a parlé. On est environ en 800 avant Jésus-Christ, au temps de Jéroboam, Il y a deux rois qui s'appellent Jéroboam dans l'Ancien Testament. Les deux sont mauvais d'ailleurs. Celui-ci a régné 41 ans et il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le premier Jéroboam, c'était le premier roi d'Israël, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel parce qu'il a fait deux veaux d'or, un au nord du pays, un au sud du pays. Et pourtant, dans 2 Rois 14-27, malgré la méchanceté des leaders, la main de l'Éternel ne s'est pas détournée de son peuple. L'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Même dans les temps d'apostasie, les temps de rejet, Dieu a suscité des prophètes pour ramener le cœur de son peuple. Ce n'était pas facile d'être prophète. Ils étaient persécutés, ils étaient maltraités, mais c'était la mission de Dieu. Et Jonas reçoit un ordre clair, et c'est bien, quand on a une claire vision de ce que Dieu attend de nous, lève-toi, va à Ninive. Donc il y avait environ 800 km à faire pour aller à Ninive, c'était au nord-est. Et là, tu vas prêcher la repentance. Tu vas prêcher le message de la repentance. Crie contre elle, parce qu'elle a péché contre Dieu. C'était un appel à demander pardon pour ses péchés. C'est d'ailleurs le seul prophète dans l'Ancien Testament qui a été envoyé vers des nations païennes pour leur annoncer la repentance. On pourrait dire que c'était le premier missionnaire. Mais quand Jonas entend cette parole, il est heurté dans son esprit parce que, bon, nous, Ninive, pour nous, ça ne dit rien, forcément, mais Ninive, c'était les pires ennemis des Hébreux. C'était les pires ennemis du peuple d'Israël. Ninive, c'était la capitale de l'Empire assyrien, c'est-à-dire des ennemis violents. Ils étaient un petit peu comme des terroristes. Ils avaient déjà fait des expéditions, ils avaient déjà fait du mal à des rois. Dieu a parlé d'eux, de leur méchanceté. Nahum l'appelle la ville sanguinaire. Vous voyez, pour vous donner un équivalent aujourd'hui, ça serait un petit peu comme la Corée du Nord. C'est un pays qui est contre toute croyance, en tout cas chrétienne, qui persécute les chrétiens et qui les font mourir dans des camps de concentration. Donc Jonas n'aimait pas du tout ces gens parce que c'était des réels ennemis du peuple de Dieu. C'était un réel danger pour sa nation. Et dans son cœur, il a grandi avec la haine des Assyriens. Maintenant, comment peut-on pardonner à nos ennemis ? Et pourtant, c'est le message de Christ. Aimez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment aimer nos ennemis ? Par la grâce de Dieu. Et Jonas, en fait, ce que Dieu lui demande, c'est de faire grâce, d'aller dans ce lieu pour annoncer la repentance, pour annoncer qu'il y a une possibilité de revenir à Dieu. Alors, Jonas aurait préféré un autre message, peut-être un message de mort, un message de destruction pour ses ennemis. Et il ne veut pas parce qu'il se dit, mais si je vais prêcher ça, peut-être qu'ils vont se repentir. Et s'ils se repentent, eh bien, Dieu leur fera certainement grâce. Et il ne voulait pas que Dieu leur fasse grâce. Alors, il fuit, c'est le deuxième point qu'on voit dans ce passage, c'est au verset 3. Jonas se leva effectivement. Dieu lui avait dit, lève-toi, mais il se lève pour aller faire le contraire. « Lève-toi !» Donc il se leva, mais il s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est d'ailleurs assez rare de voir un prophète dans l'Ancien Testament qui désobéit aussi radicalement à la volonté de Dieu. On reçoit un ordre clair et on fait le contraire. Psaume 139, verset 7, « Il sait très bien que Dieu voit tout. Où fuirais-je ? Où irais-je loin de ton esprit ? Où fuirais-je loin de ta face ? » Il fuit loin de la face de l'Éternel. Est-ce que c'est possible de fuir loin de la face de l'Éternel ? Vous allez fuir à l'autre bout du pays, vous allez fuir peut-être à l'autre bout du monde, mais l'Éternel, il y est déjà. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » On ne peut pas se cacher aux yeux de l'Éternel. Ses yeux parcourent la terre. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Quelle illusion ! Inutile, inutile vouloir s'enfuir loin de la face de l'Éternel. C'était peine perdue. Et Jonas donc va au port de Jaffa, qui est l'équivalent de Joppé dans le Nouveau Testament. C'est à Joppé que Pierre a eu cette vision avec la nappe et les animaux, qui d'ailleurs étaient un petit peu comme Jonas. C'est comme si Dieu disait à Pierre, « Allez, va vers les païens, va vers les non-croyants, et tu vas leur annoncer la grâce. » Et vous savez, la résistance de Pierre, un petit peu comme Jonas, dans son cœur, il a résisté. Trois fois, Dieu lui a dit, « Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Il fallait qu'il aille vers les païens. Et là, Jonas doit aller vers les païens, mais il ne veut pas. Donc il part en bateau pour une ville qui s'appelle Tarsis, qui est au sud de l'Espagne, c'est-à-dire un voyage de 4000 km. Vous imaginez 4000 km pour l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être avec les avions, avec les moyens de transport, c'est pas grand-chose. Mais c'était un voyage énorme. C'était le bout du monde. Et surtout, c'était un voyage très cher. Et on voit que Jonas est prêt à payer très cher pour s'éloigner loin de la face de l'Éternel, c'est-à-dire pour désobéir. Et c'est ça notre problème, c'est que la désobéissance, ça va nous coûter de l'argent. Si nous désobéissons à Dieu, ça va nous coûter cher, ça va nous coûter, peut-être on va perdre des milliers d'euros, parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu. En désobéissant, on peut perdre son travail, on peut perdre une maison, on peut perdre une voiture, on peut perdre tous nos biens. Mais Jonas veut être tranquille. Il se dit que bah, Dieu est tout-puissant et si ce n'est pas moi qui y va, il suscitera quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est facile. On reçoit une direction dans notre vie, mais on dit non, je ne veux pas y aller. Bah, Dieu, tu susciteras quelqu'un d'autre. Beaucoup de croyants l'ont fait. Ça, je pense à Moïse, par exemple. Quand Moïse est appelé par Dieu, il dit non, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Qui suis-je, moi? 5 objections. Premièrement, qui suis-je? Ensuite, il dit à Dieu, ben, ils demanderont, mais quel est ton nom? Ensuite, il dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Quatrièmement, il dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Envoie quelqu'un qui parle bien. Et cinquièmement, il dit, ce n'est pas moi qu'il faut pour cette mission, envoie quelqu'un d'autre. Donc, on a toujours à parlementer, comme si Moïse savait mieux que Dieu ce qu'il faut faire. Troisième point, la tempête. Quand Jonas suit son mauvais chemin, l'Éternel le poursuit, il envoie une tempête. Quand on cherche la tranquillité, qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, Dieu suscite des épreuves, des obstacles. En fait, ces obstacles, cette tempête, ça sert à quoi? Ça sert à ramener Jonas à son point de départ, pour qu'il retourne dans la bonne direction. Donc, toutes les épreuves que nous traversons ne sont pas nécessairement suscitées par le diable. Jonas, s'il était croyant, il pouvait dire « cette tempête, c'est l'ennemi qui a suscité cette tempête » et tous les problèmes que nous avons, on pourrait dire « c'est le diable ». Mais en réalité, cette tempête, c'est Dieu qui l'a suscité. D'ailleurs, c'est dit au verset 4 « mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux ». Cette épreuve ne vient pas du diable. Elle vient de Dieu pour ramener un croyant désobéissant sur la voie de l'obéissance. Une tempête. Le problème, c'est que Jonas n'écoute rien, il s'entête, alors que la tempête continue, il va s'entêter d'une manière démesurée. Il ne faut pas confondre la persévérance et l'entêtement. Quand vous persévérez, c'est bien parce que vous êtes dans le bon chemin et vous persévérez avec Dieu. Donc là, il faut continuer. Mais quand vous persévérez dans le péché, vous vous entêtez, et là, c'est mauvais. Alors, Dieu va le rappeler à l'ordre. Il va travailler son caractère, il va l'humilier, comme il le fait avec nous, parce qu'on le voit très bien avec les serviteurs de Dieu, comme Pierre, qui était comme un diamant brut, hein, il fallait que son caractère soit façonné. Pierre, lorsqu'il a voulu aider Jésus, il a coupé l'oreille d'un soldat, mais c'était pas le plan de Dieu. Jésus a récupéré l'oreille, il l'a remise aux soldats. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et souvent, Jésus nous reprend, il nous recadre. Pierre s'égarait. Pierre, c'est l'image du diamant brut. Son caractère devait être travaillé. Vous savez, les diamants, en fait, vous les trouvez dans les parties les plus sombres et les plus chaudes de la terre. Et quand vous les amenez à la surface, ils sont pas si brillants que ça. Ils sont un peu ternes. Ils sont rêches. C'est une fois qu'ils sont travaillés, une fois qu'ils sont habilement ciselés, polis, ils vont devenir des joyaux brillants. Mais un diamant brut, il est terne. Et c'est ainsi que Dieu nous prend avec notre valeur, mais il va nous donner notre propre éclat. Et la tempête va devenir si violente que tout le monde est menacé dans le bateau, ça veut dire que tout le monde va couler. Voyez que la désobéissance d'un seul a une répercussion sur tout un environnement. Ça veut dire toute la famille. Ça peut être toute la famille qui va être contaminée, ça peut être tout notre entourage. On a un exemple comme ça dans l'Ancien Testament, c'est cet homme, lors de la conquête d'Aï, il y avait eu, avant Aï, lors de Jéricho, il y avait eu cet interdit, vous ne prendrez rien de ce qui est à ces païens, vous dévorez tout par interdit. Et il y en a un qui s'appelle Achan, qui avait pris de l'or, qui avait pris des manteaux, qui avait mis ça dans sa tente. Et lorsqu'ils sont allés combattre à Aï, il y a eu une défaite parce qu'il y avait de l'interdit, parce qu'il y avait eu une désobéissance, et cette désobéissance, c'était à Achan. Mais on ne comprenait pas pourquoi on avait eu la défaite. Et Dieu a révélé, si vous avez eu la défaite, c'est parce qu'il y a eu de l'interdit, c'est-à-dire quelqu'un a désobéi à mon ordre. Et donc, Achan a été désigné, il a été retranché, ils sont repartis au combat et ils ont eu la victoire. La désobéissance a amené le désordre sur tout un peuple. Tout le peuple était contaminé par la désobéissance d'un seul. Donc, comprenons bien que notre désobéissance, un peu comme Jonas, ça apporte des difficultés à tout son entourage. Notre désobéissance va apporter des complications dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations. Beaucoup de choses vont être impactées. Dieu parle par Jonas à travers la tempête. En fait, quand la tempête se lève, c'est là où il faut discerner que ce n'est pas une épreuve que le diable a suscitée pour nous empêcher d'avancer, mais c'est une épreuve que Dieu suscite pour nous ramener au bon endroit. Mais il n'écoute pas, il ferme ses oreilles, donc il se cache au fond du navire, il veut dormir, il veut entendre personne. Eh bien, c'est ainsi que si vous désobéissez à Dieu, vous serez seul, vous serez au fond du navire, c'est-à-dire au fond du trou, et il n'y aura plus personne pour vous aider. À un moment donné, Jonas se retrouve tout seul. Et quand on a besoin de paix, la seule manière de trouver la paix pour nos cœurs, c'est de revenir à Jésus-Christ. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix ». Et Jonas ne pouvait pas trouver la paix dans sa solitude. Il fallait qu'il revienne à Dieu. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, si vous avez besoin de paix, la première chose, c'est de revenir à Dieu ou de venir à Jésus. Vous trouverez la vraie paix dans l'obéissance à sa parole. Alors, les païens vont prier leur Dieu à leur manière et ils vont invoquer toutes sortes d'idoles. Mais Jonas ne prie pas. C'est un petit peu contrariant, ce texte, parce que c'est le seul croyant du navire, le vrai croyant. Mais lui, il dort. Sa conscience est en sommeil. Il sait qu'il a désobéi. Les autres, ils prient. C'est paradoxal. Les païens prient, le croyant dort. On voit que c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est aux croyants de prier, de chercher Dieu, mais Jonas est endormi. Et même c'est le païen qui vient réveiller Jonas. Pourquoi dors-tu ? Verset 6. Lève-toi ! Lève-toi, c'est exactement les paroles que Dieu a dit à Jonas. C'est comme si le païen, il donne une leçon aux croyants. Lève-toi, crie à ton Dieu. C'est le temps de prier. Que se passe-t-il quand c'est le monde qui donne des leçons à l'Église ou aux croyants? C'est qu'on a vraiment perdu le feu ou notre amour pour Dieu et qu'il y a comme un sommeil spirituel qui s'est installé. Quel témoignage laissons-nous aux non-croyants quand nous désobéissons, quand nous péchons, quand nous nous égarons? Même Abraham, le père de la foi, a menti à deux reprises. Il a dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma sœur. À deux reprises, il a menti. Et deux reprises, ce sont des païens qui l'ont repris pour son mensonge. Son témoignage a été abîmé par ses mensonges, alors que les païens voyaient bien que ce n'était pas la vérité. Le quatrième point, c'est maintenant la solution divine. Jonas finit par confesser la vérité. Il dit que c'est à cause de lui que l'Éternel s'est mis en colère. Ça y est, il s'est réveillé. Enfin, un croyant qui réalise le problème de sa désobéissance. Enfin, il confesse à Dieu et même aux hommes qu'il a péché, qu'il s'est éloigné de l'Éternel. Jonas ne le sait pas encore, mais en fait, cette confession, cette demande, il avoue sa faute, eh bien, en avouant sa faute, ça le met sur le chemin de la restauration. C'est-à-dire que c'est là que les choses vont commencer à s'enclencher pour le ramener au bon endroit. On peut se tromper, On peut même désobéir à Dieu, on peut faire des mauvais choix, on peut être sur le bateau qui va à Tarsis alors que Dieu nous appelle à Ninive. Mais à un moment donné, c'est important de s'arrêter, de réaliser notre péché et de demander pardon. Et c'est là que Dieu intervient pour changer la situation. Dieu ne nous demande pas de ne jamais faire d'erreur. D'ailleurs, ça ne serait pas possible. Ce serait incapable. Il nous demande de lui demander sincèrement pardon et de revenir à lui quand on s'est entêté dans la mauvaise direction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être léger et dire « de toute façon, on fait tous des erreurs, donc je fais mes erreurs, quoi qu'il arrive, je ne réfléchis pas, et puis je demanderai pardon ». Ce n'est pas ça. Je parle de la sincérité. On veut faire le bien, on se trompe. On veut faire le bien et on désobéit quand même. Et Jonas réalise, et il donne, en fait, là, il donne une parole prophétique et il dit « jetez-moi à la mer et la tempête se calmera ». En fait, c'est Dieu qui lui met les paroles sur sa bouche parce que c'est un prophète. Donc, il va donner des paroles inspirées à ce moment-là, exactement ce qu'il faut faire, bien que ça paraît complètement fou. Et d'ailleurs, les personnes dans le navire ne veulent pas le faire. Ils se disent « mais on ne peut pas jeter un homme à la mer ». Et puis, ça n'a pas de sens, jeter un homme à la mer et la mer qui va se calmer, ils ne voient pas le lien. Mais ils finissent par faire ce que Jonas a dit et la tempête se calme. Et quand on commence à obéir à Dieu, même si on ne comprend pas tout, ils ont lutté au début, ils n'ont pas voulu le faire, ils ont essayé par eux-mêmes et finalement, ils ont obéi à la parole de Dieu, eh bien, Dieu a agi, il a envoyé un calme. Et à ce moment-là, quand on commence à obéir à Dieu, les choses changent. Jonas, lui, se retrouve dans une condition pire, parce qu'il était encore sur le bateau, ça allait bien. Maintenant, il se retrouve dans l'eau en train de couler. On pourrait dire, pour lui, ça va plus mal. Mais à l'extérieur, ça va mieux. Le calme est là. Mais même si ça va mal pour Jonas, en fait, il est dans le plan de Dieu. Maintenant, il a obéi, et peut-être vous allez obéir à Dieu, mais ça va aller plus mal, en fait, dans un premier temps. C'est un petit peu comme si on était jeté dans l'eau. Et on a l'impression qu'on coule, et pourtant on a obéi à Dieu. Et en réalité, c'est quand il est en train de couler que Dieu envoie un grand poisson pour l'avaler, et il va être 3 jours et 3 nuits dans ce grand poisson. Merci Seigneur de ce que Dieu n'a pas envoyé un grand requin blanc, mais un grand poisson pour l'avaler sans le croquer. Et là, Jonas, en fait, si vous lisez le chapitre 2, alors qu'il est dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans un état compressé, un état de souffrance, un état d'obscurité, un état peut-être où il a l'occasion de réfléchir sur ses péchés, sa désobéissance, eh bien, il va composer un magnifique psaume. C'est le psaume que vous trouvez à partir du chapitre 2 et le verset 2. Et vous avez une prière qu'il va composer, qui est très belle. Et dans le ventre du poisson, ça veut dire que quand on est sur le chemin de l'obéissance, ça peut devenir pire, parce qu'on coule, mais en même temps, ça va devenir meilleur, parce qu'on est dans le plan de Dieu, et on va recevoir des paroles inspirées et des pensées renouvelées. Et là, il commence à être vraiment dans la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va citer cet exemple dans Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, donc c'est ce qu'on vient de voir. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alors, Jonas, en reprenant le chemin de l'obéissance, prophétiquement, il se met dans la lignée de ce que Jésus va vivre. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, ce n'est pas un hasard, c'est ce que Jonas a vécu. Jésus cite: quand vous obéissez, en fait, vous vous mettez dans le plan de Dieu. Et il n'y avait pas de hasard, il fallait qu'il passe par le grand poisson, il fallait que ça dure 3 jours et 3 nuits, parce que le Fils de l'homme, qui allait venir bien plus tard, il allait se servir de l'exemple de Jonas, de même que Jonas a passé par ces 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme, il va être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, et il va ressusciter des morts. Et donc Jonas va devenir un des éléments prophétiques de la résurrection de Christ, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Alors, en conclusion, on voit que la désobéissance, ça amène des conséquences tempêtes, peut-être une tempête financière. Hein, on voit qu'il a, vous voyez, je ne sais pas combien de centaines, peut-être des milliers d'euros qu'il a dépensé pour son billet, pour aller dans une ville où il n'est jamais allé. Il voulait aller à Tarsis, mais au milieu du parcours, il a été jeté dans l'eau. Donc, il a dépensé de l'argent pour un billet de bateau, et il n'est pas allé à la destination qu'il voulait. En fait, c'est comme s'il avait perdu son argent. Il a dépensé peut-être 1 000 euros, je ne sais pas combien, 3 000 euros. Il a perdu tout cet argent pour rien. Voilà, quand vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, vous faites des erreurs financières. Ça va causer la trouble dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations. Ça va être catastrophique. Mais comme Jonas, à un moment donné, si vous confessez votre péché, si vous confessez votre faute en disant « Seigneur, j'ai désobéi, je me suis égaré », eh bien Dieu a encore un chemin pour nous ramener dans la bonne direction. Là, c'était un poisson qu'il a utilisé, mais il peut utiliser des éléments, des personnes, parce que Dieu veille sur ses bien-aimés et il permettra que vous puissiez revenir dans son plan. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta présence, pour ta grâce. Comme tu as fait grâce à ce Jonas, prophète désobéissant qui s'entêtait à s'éloigner de ta face, tu lui as tendu la main encore une fois afin qu'il reconnaisse qu'il était dans l'erreur et tu lui as ouvert le chemin de la repentance, le chemin d'un retour à toi d'un cœur sincère, afin qu'il soit utilisé pour ce que tu avais prévu pour sa vie, c'est-à-dire qu'il soit un ministre de la parole pour annoncer le salut aux perdus. Eh bien, nous croyons, Seigneur, que de même aujourd'hui, tu viens au secours de celui qui se repent sincèrement, quand bien même il est dans un bateau qui s'éloigne, loin de la face de l'Éternel, eh bien, tu seras le ramener dans ta bergerie, tu seras le ramener dans le chemin qu'il faut pour sa vie, tu seras le ramener dans le plan que tu as prévu pour lui. Oui, Seigneur, nous te prions de nous conduire toujours plus près de ton cœur, d'être de ces enfants qui aiment ta parole, qui aiment obéir à tes commandements. Pour nous, tes commandements sont plus précieux que l'or et que les richesses de ce monde. Pour nous, ta parole est une source de consolation, une source d'édification. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous avons désobéi, où nous nous sommes égarés, où nous avons suivi un chemin d'entêtement, un chemin qui n'était pas le tien, afin que nous puissions, Seigneur, servir à tes plans, servir à ta volonté, comme Jonas a pu aller finalement là où tu avais prévu à Ninive. Finalement, il a pu annoncer le message de la repentance et finalement, un peuple s'est repenti et s'est tourné vers toi. Et nous prions, Seigneur, pour que tu étendes encore ta main, pour que tu donnes encore une deuxième chance, pour que tu donnes encore un secours à celui qui est tombé, à celui qui s'est égaré, dans le nom de Jésus. Amen.